Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Des planches, l'émission critique des arts de la scène sur Radio Campus. Radio Campus, la radio de la communauté libre de Bruxelles, 92.1 FM, les mercredis 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. Toute l'équipe est à mes côtés, enfin pas toute l'équipe, il nous manque Catherine. Bonjour Nico, bonjour
Salut.
Sophie.
Bonjour.
Et bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles, malgré la crise du CAP, hein, dont on a consacré une émission la semaine dernière. Les discussions sont en cours, le Conseil d'aide, ce fameux mouvement informel un peu improvisé, et a rencontré Rudy Demotte lundi. Il en discutera dans la réunion du gouvernement demain, jeudi. Entre-temps, le Conseil d'aide au projet, donc le CAP, s'est réuni avec le Conseil d'art dramatique, qui donne des aides au théâtre, aux conventions et aux contrats-programmes. Les discussions sont en cours. Le mouvement, en tout cas, ne se tarit pas et compte bien aller vers cette direction, vers une défense de la politique culturelle et notamment des arts de la scène. C'est une affaire qui suit son cours. On vous tiendra au courant au fil des émissions. Place au spectacle, parce que la conspiration des planches, c'est ça.
The show must go on.
Voilà. Alors, on ira au National pour la dernière création de Fabrice Murgia, Les Enfants de Jéhovah. On ira du côté de l'Océan Nord pour une nouvelle écriture, un premier texte, première mise en scène d'Émilie Maréchal. La pièce s'appelle La Petite Fille. On ira faire un tour du côté du public avec L'Encrier a disparu de Daniel Danis. Et enfin, on vous parlera, si on a le temps, des Martyrs avec Le Brassier, la création de Ligny et la reprise de Rangione. On vit mieux, mais on meurt longtemps. Et enfin, petite pensée à Michel Jacquard, décédé l'année dernière, vidéaste, dont les Brigitines font une rétrospective ce week-end. Je me retourne vers Olivier. Olivier, toi, tu nous parles des Enfants de Jéhovah.
Voilà, la nouvelle création du très ou trop prolifique Fabrice Murgia. Les Enfants de Jéhovah, il s'est inspiré de son histoire personnelle, puisque son père a fait partie de la secte des Témoins de Jéhovah. C'est un peu le point de départ de ce projet, qui nous montre sur scène une jeune femme qui est en robe de mariée, qui supplie face caméra son frère de venir assister à son mariage. Puis il y a toute une série de flashbacks qui vont faire intervenir la mère de la mariée que l'on retrouve, qui débarque de son Italie natale, toute perdue, ne connaissant pas la langue, qui nous parle des accords politiques entre l'Italie et la Belgique pour faire venir des immigrés pour travailler dans les mines. Le fait qu'elle se sente seule en Belgique parce que son mari travaille tout le temps et est épuisé quand il rentre. Et puis aussi le fait qu'elle a perdu un enfant mort-né, qui renforce sa solitude, son sentiment de désolation. Et puis un jour arrive
toc toc,
une espèce d'ange blanc, immaculé, voilà. Et c'est
la lumière,
et qui va apporter des solutions à cette nonna, à cette femme toute perdue ici dans cette Belgique étrangère, et qui va être sa sortie de son blues,
quoi. C'est voilà. Une sortie de dépression,
voilà,
on va dire, et c'est comme ça qu'on rentre dans la secte.
Voilà, et c'est un témoin de Jéhovah qui va l'amener dans la secte, parce que c'est une secte. Et donc c'est un peu de tout ça dont va nous parler Fabrice Murgia.
Mais avec sa signature particulière qui est très plasticien, on va dire.
Tout à fait. Donc ça commence par un très très bel extrait vidéo d'un petit garçon d'une dizaine d'années en gros plan sur l'écran qui nous parle de l'amour, de la découverte de l'amour, de la sexualité. C'est vraiment... Voilà,
c'est un discours d'adulte dans une voix d'enfant en italien avec un petit gamin qui chic et qui se la joue un peu ciccio bello.
Voilà. C'est tout à fait charmant, attendrissant. Et puis, ça commence sur une première image, un peu à la Pommeraye, il faut bien le dire, de la grand-mère blanche de dos dans le noir. Donc, le spectacle est construit d'une succession de petites scénettes. Il y a deux espaces scénographiques, l'espace de la caméra avec la jeune fille qui s'apprête à se marier, et puis l'espace, je veux dire, qui est en dehors de rêves, de fantasmes, où il y a la grand-mère. Il y a aussi un écran sur lequel va apparaître vers la fin du spectacle Fabrice Murgia lui-même. Donc il se met en scène dans ce spectacle.
Très émouvant. Hein,
très émouvant, puisqu'il nous dit, il dit au spectateur que ce spectacle s'est inspiré de l'histoire de son père, et qu'il le dédie à son père qui a réussi à résister et à s'extirper de cette secte. Et c'est un hommage, en fait, ce spectacle, un hommage au courage de son père et aussi à sa grand-mère qu'il n'a pas connue et qui est restée enfermée dans cette secte. Mm-hmm. Puisque son fils, le fils de la nonna, quand il a quitté la secte, il est mort aux yeux de sa mère.
Chez les témoins de Jéhovah, une fois que tu quittes tout le milieu, c'est tout un monde. Hein. On explique de toute façon dans la pièce, même qui est très plastique, c'est curieux parce qu'on voit par petites touches le milieu du monde de Jéhovah, les baptêmes dans les piscines, les réunions qui se font tous les jours, les lectures, le travail, pas de dimanche, pas de Saint-Nicolas pour les enfants, toute cette tension qui marque, hein, qui est très marquante. Voilà,
en une heure, en 60 minutes, c'est vraiment des petites touches pointillistes comme ça. Moi, la fin, c'est un peu grand guignol comme ça, justement, avec l'arrivée de Saint-Nicolas et qui dure un peu en longueur. Ça m'a un peu laissé sur ma faim, justement. Le jeu de la nonna aussi, un petit peu bancal, mais c'était à la première, donc j'imagine qu'avec les représentations, ça va s'ajuster. Mais globalement, c'est un spectacle qui suscite beaucoup, beaucoup d'interrogations, pas seulement par rapport aux sectes, parce que ça traite des sectes, mais ça traite aussi de la place de l'enfance dans une famille où la liberté de penser n'existe plus. Comment se construire dans ce genre de milieu familial? Et je pense que là, c'est là où Fabrice Murgia est le plus fort.
De toute façon, Fabrice Murgia revient avec une signature que l'on connaît, donc on n'est pas spécialement surpris. Parfois, on s'est dit à la sortie, beaucoup se sont dit... Et il travaille un peu trop, il n'a pas le temps de mûrir ses œuvres. Donc il y a ce sentiment. En même temps, il y a quelque chose qui est intéressant dans son œuvre, hein, dans son travail, mais on peut avoir quelques réticences. Et à la première, beaucoup avaient ces...
Tout à fait. J'en avais aussi quand je suis sorti du spectacle, parce que je voyais beaucoup d'ingrédients très intéressants, mais je ne voyais pas trop l'unité, et ça me laissait un peu perplexe. Et puis finalement,
ça mûrit, et
le travail sur les comédiennes, sur la lumière, sur la vidéo, est assez remarquable.
Oui, en tout cas, Magali Pinglot est là, c'est toujours très intéressant de voir des comédiens qu'on connaît dans d'autres univers, dans d'autres metteurs en scène se mélanger, mais vraiment en grand écart dans un metteur en scène hyper moderne. Et c'est ça, c'est très 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 intéressant. Les Enfants des Jéhovah, c'est à voir au Théâtre National, le dernier Murgia.
C'est jusqu'au 1er décembre, pardon.
Oui, c'est jusqu'au 1er décembre, www.theatrenational.be. Et comme j'ai les dates sous les yeux, sachez que ce spectacle sera également en province, à Namur, fin janvier, et à tourner également au mois de février.
Merci Nicolas. Je me retourne vers Sophie. Sophie, toi aussi, c'est une histoire de religion, la petite fille.
Oui, religion notamment. Et puis c'est aussi, je pense, un spectacle qui se laisse, qu'on doit laisser mûrir, parce que là aussi, il y a plein d'ingrédients différents. Voilà, on sait que le théâtre C'est en Or propose très souvent des spectacles de jeunes artistes qui s'intéressent à la recherche sur le théâtre contemporain, etc. Donc on peut pas s'attendre à un spectacle classique totalement linéaire, mais plutôt un objet bizarre qui risque de nous prendre aux tripes ou au cerveau, comme on veut. Et voilà, c'est le cas de cette petite fille qui est la première écriture et mise en scène de Émilie Maréchal, qui travaille ici avec le collectif 6414. Donc un spectacle avec peu de texte, très très peu de texte, une lumière diffuse. Donc on retrouve ça un peu dans cette note d'intention, on sent que ça se passe dans le noir, effectivement, il y a une lumière très diffuse, très très millimétrée, et qui contribue énormément à une sensation troublante qui prend le spectateur, parce qu'on est dans une ambiance pesante, une ambiance lourde, avec des sons, de la musique des sons sourds,
sans doute.
Oui, exactement, et des sons déformés, une lumière aussi très très sombre finalement. Et donc à travers cette forme déstructurée qui appelle totalement à l'univers du cauchemar, ou qui appelle au rêve, mais même plus au cauchemar. Voilà, Émilie Maréchal aborde différents thèmes, notamment la foi, le sacrifice, et donc voilà, la religion chrétienne.
Il y a une fable, apparemment, on suit aussi l'histoire d'une petite fille.
C'est ça, dans ses relations familiales. Donc, en fait, l'histoire, c'est... à l'approche de la mort, ou en tout cas à la fin de sa vie, une dame va donner une espèce de journal intime à sa fille. Donc voilà la petite fille. Et à la lecture de ce journal intime, en fait, elle va faire revivre le passé de sa mère et de son grand-père. Donc elle se plonge totalement dans des relations familiales.
Et c'est lisible, justement, ce spectacle où on est dans le journal passé-présent.
Voilà. Alors, c'est pas passé-présent. Je pense que c'est totalement passé. Elle est totalement plongée dedans, donc à l'instar d'un rêve. Et elle recrée ses souvenirs, donc elle les recrée même plus par l'image, par des tableaux de situations du quotidien, que par les mots. Et voilà, la petite fille, elle apparaît finalement toujours comme un observateur invisible et silencieux dans tout ça. Et elle observe la souffrance de sa mère, qui est totalement dans la foi, dans le don de soi, l'amour de Dieu, voilà.
La totale, quoi.
Mais en même temps, tout ça, c'est... Tout ça se fait très, très... Ça ne se fait pas par les mots, quoi. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment...
Mais justement, tu vois, beaucoup dans les théâtres, dans les films, il y a un imaginaire sur la religion, des icônes, des places, ne fût-ce que la Madone, c'est déjà une image, la Pietà. Est-ce qu'on joue sur ce genre d'image?
On joue sur ces images d'une certaine façon, c'est-à-dire que dès le départ, la première musique, le premier son qu'on entend dans ce spectacle, avec tout dans le fond de la scène, une toute petite lumière où on aperçoit quelqu'un assis... C'est l'Ave Maria. Mm-hmm. Donc voilà, on sait déjà qu'on va être dans cette ambiance-là. On a régulièrement des chants liturgiques qui interviennent. On a quelques images de religion. On a le prêtre sur scène, la dame qui prie.
Ça a l'air d'être un beau travail pour une jeune.
C'est un très beau travail. Et alors, il y a aussi toute une analogie à l'histoire de Job dans la Bible, où là, on passe totalement dans un autre univers parce que on assiste à une scène de buffet avec une douce folie, comme ça, au ralenti. Il y a un très, très beau travail. Très précis, quelque chose de très beau. Et voilà, et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que le texte importe peu, c'est juste un élément à côté de tous les autres éléments, hein, du jeu, de la lumière et des sons. Et c'est vraiment ce qui ressort énormément de ce spectacle, c'est une tension très forte. Voilà, il y a cette tension sur scène, un environnement très pesant, et voilà, ça touche vraiment le spectateur.
Bah, on dirait chapeau, hein, j'ai envie de dire, pour cette petite.
C'est ça, très beau premier spectacle, en effet, une belle expérience sensorielle.
On fait le tour de la distribution, peut-être?
Oui, alors donc, on a donc dans ce collectif 74-14, alors écriture et mise en scène de Émilie Maréchal, et on a Audrey Dereau, François Delcambre, Lindsay Ginépry, Sébastien Fayard, Thomas Dardet, Magali Pingot,
Papinglo.
Voilà, et Nelly Framinet, notamment à la création Lumière.
Alors, tant qu'on est dans les capes ou pas les capes, on se demande si les spectacles, finalement, qu'on voit, ont reçu l'aide à la cape, cette fameuse aide. Pour les enfants de Jéhovah, Murdia m'a dit qu'il n'a reçu jamais aucune aide de la cape. Et alors, on me dit généralement...
Il a le soutien du national. Hein.
Oui, mais bon, il n'a jamais reçu d'aide. Les chagrins des ocres, il les avait avant le national. Et alors, on nous dit que dans les flyers que vous recevez, tout normalement... Bon, avant, moi, je voyais une aide de la cape, il n'est pas écrit. Mais il est par contre écrit... avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service Théâtre. Et on me dit que quand il y a cette information, normalement, ça devrait vouloir dire qu'ils reçoivent une aide de la CAP, peut-être de 10 000, de 30 000 pour un projet.
Ça peut être une aide au projet ou une aide plus fonctionnelle, plus structurelle, mais ce qui n'est probablement pas le cas ici.
Non, ici, si elle a reçu quelque chose, c'est une aide de la CAP, tout simplement, pour un premier projet.
Et quelque chose que je ne connaissais pas, les spectateurs peuvent soutenir le projet. Donc en allant sur le site du théâtre, c'est en or. Il y a la plateforme, je pense que c'est Kiss Kiss Bang Bang.
Ouais,
et en fait, les spectateurs peuvent donner un peu d'argent et recevoir en échange une carte dédicacée de l'équipe.
À la
My
Major,
comme et ouais, donc ça peut être pas mal pour soutenir la création comme on peut en tant que citoyen. Voilà, donc c'est à voir au Théâtre Océan Nord jusqu'au 5 décembre sans relâche.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Alors, on parle vite, c'est vite dit. On va au martyr. Alors, le brasier de Georges Ligny. Oui, on va terminer avec le meilleur, parce que Nicolas a adoré Daniel Danis au public. Allez, là, on va au martyr. Martyr, Georges Ligny pour le brasier. Georges Ligny aime les auteurs canadiens, québécois. Il est parti nous chercher David Paquet. Et c'est un trio de femmes.
France Bastoun, Violette Palaro et Marie Dubled.
Voilà. Une mise en scène très simple. Elles sont toutes les trois dans un carré de lumière et en fait, on découvre que ce sont déjà trois sœurs très efficaces. Elles ont juste un téléphone à côté. Elles s'appellent l'une l'autre. Tous sont dans un tourment. Il y en a une qui se fait un trip, qui n'arrête pas de cuisiner des biscuits. Il y en a une qui a un peu du mal avec son enfant, un peu vraiment beaucoup de mal. Et il y en a une qui est plus ou moins la plus cynique, la plus austère, un peu enfermée chez elle. Et on est très vite dans cette dynamique de trois sœurs qui se téléphonent, chacun avec sa dépression, hein, carrément. Et on va, dans un jeu de flashback, finalement, retourner dans plus ou moins le passé ou l'histoire de chacune. Et on voit la difficulté d'être une famille et la difficulté d'être bien dans sa vie. Ces trois histoires, je l'ai vu il y a deux semaines, donc c'est déjà un peu oublié. Ces trois histoires un peu compliquées finalement à comprendre qui est qui dans la famille et le pourquoi. Donc on reste un peu sur notre fin, mais il y a une dynamique de jeu qui est à la Ligny où les filles elles sont un peu du rentre-dedans dans une sobriété très, très juste. On a un carré de lumière et tout doucement le spectacle prend, les choses s'éclatent dans le décor parce que le décor commence avec une espèce de feu à l'arrière qui est très symbolique de cette famille qui s'enflamme.
Le fameux brasier donc. Si je me rappelle, David Paquet, on l'avait découvert aussi avec Porc et Pic qui avait été créé à l'atelier 210. Là aussi il y avait eu une espèce d'éclatement de la parole et une parole assez forte et cinglante. Est-ce qu'on est toujours dans ce cas-là ici?
Ligny prend des textes coup de poing et a des mises en scène coup de poing. Moi ici, je l'ai trouvé assez sobre par rapport à d'habitude. Ce qui moi m'a manqué, c'est que Ligny nous a tellement habitués à une autre configuration de la salle que ce côté très classique moi me dérange parce que lui je l'ai connu et je l'ai aimé dans des mises en scène où on pouvait être au milieu, on pouvait être à côté, les comédiens pouvaient nous frôler. Ici on a cette salle à l'italienne qui est un peu pour moi un peu trop bourgeoise pour ce côté fort écorché. Alors nous on avait du mal à entendre quelques sons pourtant on était au premier rang parce que il le fait rentrer dans un jeu très premier degré, très rentre-dedans, ces comédiennes. Parfois, les mots sont mâchés, mais le trio fonctionne très bien. Et les quelques mises en scène, quelques jeux de mise en scène, comme ce téléphone qui met une rythmique, est très fort. Ce qu'il y a, c'est que le texte, à un moment donné, moi, je l'ai dilué, voilà, deux semaines après, je ne m'en souviens plus très bien. J'ai juste ce sentiment que la famille est vraiment un champ de bataille, et même soi, hein, il faut savoir tenir le coup.
Un vrai brasier.
Jusqu'au bout.
Encore une histoire de famille.
Oui, oui, justement. On creuse ce qui nous préoccupe apparemment tous. Donc ça, c'était le brasier pour la grande salle du Théâtre des Martyrs. Et Nicolas, toi, tu avais vu un spectacle qui revient dans la petite salle. On vit peu, mais on meurt longtemps.
On vit peu, mais on meurt longtemps.
J'avais dit que j'allais me tromper.
Je l'ai vu il y a deux saisons. Ça avait été créé du côté du Théâtre de la Toison d'Or. Et c'était la venue sur scène de Fabrizio Rongione, qui avait abandonné un petit peu les planches pour se consacrer au cinéma. On l'a vu beaucoup chez les Dardenne. Ici, avec Samuel Tillman, il avait décidé d'écrire un texte sur la politique et sur lui-même également, c'est-à-dire que pendant ce one-man show qu'il nous propose, il ouvre le journal et commente un petit peu l'actualité. Alors on parle de politique, d'écologie beaucoup, et il retourne l'écologie un petit peu dans tous les sens, les comportements que ça pousse à faire. Et si je me rappelle bien, il parle aussi beaucoup de sa famille italienne d'origine, du rapport de son père par rapport aussi à cette politique. Est-ce que tout le monde comprend bien ce qu'on doit faire pour améliorer les côtés écologiques de la société. Bref, il tourne ça en dérision dans un rapport assez, pas froid, mais je vais dire, c'est un humour assez glacial même parfois, parce que on ne se bidonne pas, mais on sourit beaucoup, et lui aussi sourit jaune d'ailleurs sur scène. Ce spectacle avait aussi bénéficié d'une aide à la mise en scène par Alexis Golin et Samuel Tillman pour ce spectacle, et ça a bien fonctionné, puisque pendant 2 ans il a tourné. Je crois qu'il a un petit peu adapté aussi, un petit peu changé son texte, mais voilà, c'est un joli moment à passer, et c'est aussi le plaisir de voir Fabrizio Ronjon sur les planches, qui est quand même un très très bon comédien. Mm-hmm. Et c'est à voir jusqu'au 8 décembre, tout comme Le Brasier. Et ça, c'est dans la petite salle du théâtre de la Place des Martyrs, www.theatredesmartyrs.be.
Voilà, alors je reste avec toi, parce que toi, tu es parti voir L'Encrier a disparu, Daniel Danir.
Non, Daniel Arms.
Daniel Arms, aujourd'hui, mais tout va.
J'ai pas relevé tout à l'heure.
Notre ami russe, vas-y.
Alors, on va rappeler peut-être les dates d'existence de Daniel Arms, 1905-1942. Il est né en Russie, donc, mm-hmm. et donc il a connu la naissance de l'ère soviétique. Et avec d'autres écrivains, il a fondé le mouvement Oberiou, qui était un peu le mouvement dada à la russe, le mouvement surréaliste, où on cherchait des formes artistiques nouvelles et libérées des anciennes conventions. Alors, l'espoir suscité par l'ère soviétique n'a pas provoqué cela, puisque d'autres contraintes sont venues sur les artistes, évidemment, surtout sur les artistes qui pouvaient remettre en cause la révolution. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel Arms. Alors, comment ça se traduit dans ce spectacle? C'est Daniel Arms n'a pas vraiment écrit pour le théâtre. Il y a une multitude de textes, et ici, ils sont adaptés, compilés par Bernard Cognot, qui met en scène 6 jeunes comédiens, les 6 jeunes comédiens qu'on voit dans plusieurs productions du public. Et il fait ce puzzle autour un petit peu de la question de la censure et de la voix de l'écrivain. Comment est-on amené à la terre dans une dictature, comment elle doit essayer de s'en sortir. Alors, on est dans de l'humour noir aussi, puisque Daniel Arms s'est beaucoup exprimé par l'humour et a tourné en dérision cette censure. Alors, on a une espèce d'enchaînement de blagues comme ça, des scénettes assez cocasses souvent, et cette cocasserie est amenée aussi par la scénographie d'un autre très prolifique, Ronald Burns, qui est encore à l'initiative de cette scénographie. On est dans la salle des voûtes. Donc c'est tout en longueur, évidemment, du côté du public. Et le fond de la scène est une espèce d'armoire de carton avec des cases d'où les comédiens sortent et rentrent avec des situations cocasses de pêche où on harangue les grands écrivains russes et on les tourne en dérision également. C'est un chouette spectacle vraiment parce que cette approche de la censure est vraiment original. Et quand on dit L'Encrier a disparu, eh bien L'Encrier a disparu, pourquoi? Ben on a enlevé l'outil de l'auteur, de la voix de l'auteur, et c'est comment amener une autre voix. C'est un petit peu la question qui sous-tend ça. Alors Daniel Arms a été beaucoup persécuté par le pouvoir soviétique. Il a fini en asile psychiatrique aussi, donc ça soulève beaucoup de questions.
Arsenic nous l'avait présenté dans une espèce de cabaret Daniel Arms, qui est très très efficace.
Alors ça reste aussi un peu dans cette ambiance de cabaret ici, un cabaret pétulant, nous dit-on, je dirais plutôt un cabaret noir, vraiment qu'on nous propose ici. Et alors, je voudrais surtout souligner le jeu de 2 comédiens, de Marwan Amimi et de Cédric Cerbara, qui sont très très bien dans cette production. Et comme toujours avec Bernard Cognot, il y a une espèce de fausse naïveté qui se traduit dans ces pièces. Moi, je me rappelle de Tout au bord, c'était la même chose avec Mary Polkem. Donc, on est vraiment tout au bord de quelque chose, de la réalité. Et je trouve ça assez bien. Une belle surprise donc du côté du public avec L'Encrier a disparu. Et c'est à voir jusqu'au 31 décembre. Spectacle de fête, donc.
Donc, oui, mais on fera une spéciale fête. Mais retenez déjà, donc, L'Encrier a disparu. Avant de terminer l'émission, petite pensée à Michel Jacquard, dont les Brigitines font une rétrospective du 29 au 1er, donc ce week-end. Michel Jacquard, c'est un homme de l'ombre derrière la caméra. Il a énormément filmé la danse et même des théâtres, des spectacles. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des spectacles des années 80 filmés par lui. C'est très rare, c'est un métier très particulier, très compliqué, qui laisse une trace. On dit toujours que bon, le théâtre passe mal en télé ou passe mal en image. Quand il y a un vrai artiste derrière et qui prend le temps et les moyens, on peut faire des bijoux en vidéo. En plus, les films sur la danse, avec la danse, sont un peu à la mode. Pour l'instant, Flagey vient de faire un petit cycle. Ça vaut le coup d'aller voir un petit week-end de films très particuliers sur la danse, signé Michel Jacquard. C'est dans la chapelle des Brigittines, ambiance et atmosphère.
C'est à partir de jeudi soir, donc, du côté des Brigittines, et ça se poursuit pendant tout le week-end. Alors, il y aura aussi bien court-métrage que moyen-métrage, avec documentaire d'auteur, film performance. Bref, on abordera toutes les formes du film de danse.
Signé Michel Jacquard. Ainsi se termine la conspiration des planches. Rendez-vous la semaine prochaine avec une spéciale turque, Sound of Istanbul. On ira voir qu'est-ce qui se passe du côté de la maison des cultures de Molenbeek. Entre-temps, cette semaine, c'était quoi la dérive sectaire, ou la religion, les enfants de Jéhovah, la petite fille d'Émilie Marchal, le brasier, la famille, toujours et encore. La société, comment se positionner? On vit peu, mais on meurt longtemps. Effectivement, on meurt longtemps. Et enfin, Daniels Arm, les Russes, l'encrier a disparu sur la censure et la parole et l'humour. Bonne semaine à tous, rendez-vous la semaine prochaine. Merci Nico, Sophie, Olivier, bonne planche à vous trois.
Bye bye.
Et le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be dès vendredi midi. Très belle semaine à vous, à très bientôt. La conspiración.